À voix nue. Cette semaine, Alexandre Breton rencontre Marie-Pierre Pruvot, alias Bambi. Ce soir, scène primitive, les années algériennes.
Marie-Pierre Pruvot, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Vous nous recevez chez vous à Pantin pour cette série d'entretiens pour À voix nue et c'est une joie. Car ce qui a suscité cette rencontre, c'est la fécondité des réflexions suscitées par votre trajectoire, dont le fil rouge pourrait être la scène. La scène où se joue une énigme dont je voudrais, en guise de préambule à nos conversations, dire quelques mots. En effet, c'est une évidence de dire que nous passons notre existence entière comme hantée par une énigme. Énigme que nous conjurons ou parons de voiles multiples, que nous le voulions ou non. Cette énigme à laquelle fait écho cette déclaration de Nicolas Malebranche, lorsqu'il écrit « Je ne suis que ténèbre à moi-même », cette énigme, c'est celle que porte la question de notre identité. Ce que je suis, je ne le sais pas. Et si je suis multiple, ne cessant de changer, d'être autre, alors je ne suis littéralement rien. Moyennant quoi, je n'ai pas un autre, mais est toujours autre, le toujours autre. Or, disais-je à l'instant, à cette question, à cette énigme, votre trajectoire s'y est intimement confrontée. En effet, c'est d'abord celle de ce jeune garçon nommé Jean-Pierre, qui ne s'est guère reconnu dans le sexe désigné par ce prénom. C'est celle ensuite de ce jeune garçon qui deviendra Marie-Pierre, alias Bambi, grande figure des cabarets parisiens des années 50-60. C'est celle ensuite qui vous verra devenir, après un changement effectif de sexe, madame la professeure de lettres au sein de l'éducation nationale, pour enfin être consacrée femme de lettres, écrivaine, à partir des années 2000, lorsque vous vous consacrerez essentiellement à ce qu'on désigne par un oxymore, l'écriture de soi. Je parlais à votre propos, à propos de votre trajectoire, du fil rouge de la scène. Or, il faudrait plutôt parler de scène au pluriel, des scènes du soi, des scènes où se joue, dans le rapport à un public, ou de manière plus introspective, l'expérience de soi, de l'insaisissable soi, si l'on considère que l'existence entière est une odyssée du soi. Alors je voudrais, pour commencer cette série d'entretiens et cette première émission, ouvrir sur une phrase qui m'est revenue en préparant ces entretiens, une phrase d'Henri Michaud que l'on trouve dans un texte publié en 1980, « Une voix pour l'insubordination », où Henri Michaud écrit, je cite, « On a surestimé les pères, au commencement est la demeure, le local d'habitation, ce qui entoure. Pour vous, Marie-Pierre, c'est l'Algérie où vous êtes née en 1935. » Alors peut-être pourrions-nous commencer par cet environnement, ce lieu premier.
Oui, l'Algérie m'a beaucoup marqué parce que j'y suis né et j'y ai vécu jusqu'à 18 ans pratiquement. Donc j'en suis tout encore rempli maintenant. Et quand j'y suis retourné, j'ai bien vu à quel point cela me touchait. Donc j'ai été élevé en grande partie à Borj-Benaïa. Il y a deux et même trois endroits particuliers qui m'ont hébergé en Algérie. C'est d'abord la maison familiale, parce que ma grand-mère se retrouvant seule dans sa maison, mon père avait demandé à ma mère que nous allions vivre chez ma grand-mère. Mais j'étais si jeune que je ne me souviens pas quand on a fait ce déménagement, enfin, ce qui n'était pas un déménagement, puisque toutes nos affaires étaient restées là-bas, mais quand même mes parents se sont établis à Borj-Benaïa, dans la maison familiale. Donc, j'ai été élevée à Borj-Benaïa et je suis allée à l'école à Borj-Benaïa. Nous y sommes restés jusqu'à la mort de mon père. C'est-à-dire que jusqu'à 14 ans, je suis restée à Borj-Benaïa. Puis, ensuite, je suis partie aux Isères, à 5 km de là où mon père avait le garage et où il y avait un appartement attenant. Ma grand-mère étant partie dans un hôpital, il a fallu vendre la maison pour la mettre à l'hôpital. Et quand j'ai dû aller en seconde, parce que le collège où j'allais tout près des Isères n'avait pas de classe de seconde, forcément c'était un collège, et j'ai dû être mise en pension à la Pointe Pescade, dans la banlieue d'Alger. Donc voilà les trois endroits qui m'ont beaucoup marqué. Je dis les endroits parce que les lieux d'habitation m'ont beaucoup plus marqué que les villes elles-mêmes, ou les villages eux-mêmes.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire que dans Borges-Ménayel, c'est la maison de Borges-Ménayel qui me marque énormément. Alors, il y a l'école à Borges-Ménayel, mais je suppose que c'est un petit peu partout pareil. Il y a les rues de Borges-Ménayel, mais où je vais assez peu. Ce que je fréquente, c'est le bois d'eucalyptus, où j'amène ma chèvre et mon petit cochon se promener tous les jours, et qui donne sur l'Oued-Ménayel, où je vais très souvent. J'ai une tante qui s'y promène aussi, je vais la rejoindre en sortant de l'école. Je reste une demi-heure, trois quarts d'heure, et je rentre ensuite quand j'ai des animaux, parce que les animaux jouent un grand rôle dans ma vie, dans mes affections, et dans la compagnie qui m'est tenue par eux, plus que peut-être par des humains à cette époque-là. Et ensuite, tout change. Après la mort de mon père, tout change. Je n'ai plus d'animaux. J'habite aux Isères dans un petit appartement avec ma mère. Tous les matins, je vais à 10 km de là au collège. Et puis, voilà, je vis très renfermée dès l'âge de 14 ans. Beaucoup plus renfermée qu'à Borges-Ménayel parce qu'il n'y a pas de jardin, il n'y a qu'une cour. Et je vis renfermée, je lis, je ne fais que lire, et j'essaye d'écrire déjà des poèmes comme on écrit à l'adolescence. Et après le brevet, donc, on me met en pension à la Pointe-Pescade, dans un café parce que le frère de ma mère, donc mon oncle, nous est redevable de bien des bêtises qu'il a faites avec nos affaires, et il propose à ma mère de me mettre en pension chez sa maîtresse. C'est très mal vu dans la famille, mais enfin, ça me donne l'occasion de pouvoir aller au lycée. Or, il se trouve qu'une fois au lycée, je ne me sens plus chez moi au lycée, alors que j'aimais beaucoup l'école quand j'étais au collège, pas du tout quand j'étais à l'école primaire. Je me retrouve au lycée, je pense que je n'ai plus rien à faire et j'imagine de partir. Voilà. Mais le café m'a beaucoup apporté parce que j'y ai perdu un peu de ma timidité quand même. Ça m'a donné l'occasion, parce qu'on m'a demandé si je voulais pas aider à servir quand il y avait beaucoup de monde ou quelque chose comme ça. Et je l'ai accepté, je l'ai fait volontiers. Donc j'y étais aussi très bien. Mais pas au lycée, donc pas tellement en ville, mais dans ce café où il y avait du monde et où j'avais ma chambre, où je pouvais me retirer quand je voulais.
Vous décrivez une existence, alors de cette période de l'enfance, plutôt solitaire. Vous aviez une sœur.
Alors j'avais ma sœur, c'était ma grande sœur, elle avait 3 ans et demi de plus que moi, et c'est elle qui m'apprenait les prières, parce que mes parents n'allaient pas à l'église, mais elle y allait beaucoup, et c'est elle qui voulait m'apprendre à lire et à écrire, ce que j'ai toujours refusé, mais qui m'amenait à l'église, elle voulait m'amener à la messe, elle voulait me faire connaître le monde qu'elle aimait elle-même. Et cette sœur, quand elle a été mise en pension, parce qu'il n'y avait pas de collège pour elle, et quand elle a été mise en pension, et la deuxième année où elle est entrée, elle a été victime d'une épidémie qui s'est répandue en Algérie à cette époque, et elle est morte. Et donc, j'avais 10 ans quand elle est morte, et ça a complètement transformé la famille. Ma mère n'a plus été la même, mon père non plus, enfin, tout a été différent. Mais c'est pourquoi les animaux que j'aimais déjà beaucoup ont été tout à fait mes amis. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. Mais c'est passionnant, les animaux, surtout pour les enfants qui découvrent la vie dans les animaux. Quand on fait couver des poussins et des petits canards, qu'on fait couver ça par une poule et qu'on voit les petits canards s'enfuir vers la mare à canards et la mère affolée de voir les petits canards dans l'eau et les appeler, ne comprenant rien à ce qu'elle leur dit, naturellement. Et tout ça, ça forme une vie.
Vous viviez quasiment ce que prescrit Rousseau dans les Milles, c'est-à-dire l'observation de la nature.
Oui, ah ben, j'avais ma grand-mère, ma grand-mère était là pour ça. Alors on faisait des couvées, on apprenait combien de temps met un œuf de poule à éclore lorsqu'il est mis en couvée, qui est différent d'un œuf de canne, différent d'un œuf de pintade, etc. Tout ça, j'ai appris. C'est comme de se faire des semis ou de bouturer des géraniums. J'ai appris tout ça, j'avais 6-7 ans, je savais bien déjà faire tout ça.
Vous étiez très proche de votre grand-mère.
Énormément, oui. Et c'est elle qui m'a appris à me servir de la machine à coudre à l'essingère qu'il y avait. Elle cousait l'après-midi. Elle était culottière. Elle faisait des pantalons pour hommes. Et comme c'était la guerre et qu'on ne trouvait rien, il y avait beaucoup de femmes qui teignaient en bleu leurs draps, des gros draps qu'il y avait, et faisaient faire des pantalons pour leur mari, pour aller au travail, des bleus de travail pour leur mari, à cette époque.
parce que vous êtes né en novembre 1935, vous avez des souvenirs justement de la guerre ?
Oui, c'est beaucoup dire. J'ai de la guerre, j'ai des souvenirs de... on me disait qu'on me parlait de mon père, qui allait bientôt revenir, qu'il aurait aimé, il aurait bien aimé voir son petit garçon ne portant pas de robe, etc., parce que je mettais les robes de ma sœur et que, bon, on ne savait pas trop quoi en penser. Et alors, moi, mais ça ne fonctionnait pas. Je disais, mais si mon père m'aime, il m'acceptera quand je suis. Je répondais déjà à des choses comme ça, à 5 ans, quoi.
Parce que votre père était parti au front.
Non, il n'était pas au front parce qu'il avait fait la guerre de 14. Je suis issu d'un second mariage. Mon père était un veuf. Il avait perdu sa femme et ses enfants déjà. Et je suis issu d'un second mariage. Et mon père n'a pas été mobilisé, n'est pas parti au front cette fois-ci. Il a fait Verdun, mon père. Et il est parti à Ouargla, dans le sud saharien. Et il est resté là, à Ouargla, quoi, voilà.
Donc vous viviez dans un environnement où se trouvait essentiellement votre mère, votre grand-mère, un environnement féminin.
Ah oui, essentiellement féminin.
Et votre sœur jusqu'à l'âge de 10 ans.
Ma sœur, oui. Et en plus de ça, l'après-midi, venait une tante, une voisine, etc. Et c'était... on passait tout l'après-midi, enfin les après-midi où j'étais là, jusqu'à 6 ans, j'étais là tous les jours. On passait l'après-midi, il y avait 5, 6 femmes, c'était un gynécée, et je voulais y participer, je voulais aussi coudre, et je voulais aussi tricoter, tout ce qu'elle faisait, je voulais le faire. Alors quelquefois, on me disait « mais elle va jouer », etc. Mais je ne voulais rien entendre, je restais là, j'y tenais absolument, c'est comme ça que j'ai appris la broderie avant d'apprendre à lire et à écrire.
Vous viviez donc dans la région de la Kabylie.
Oui, en Grande Kabylie.
Et vous avez donc découvert en 1962 que vous étiez pieds noirs. Vous savez, on appelait les personnes qui viennent d'Algérie étaient des pieds noirs.
Oui, je suis pieds noirs, mais à l'époque, on ignorait ce mot-là.
Tout à fait. Et alors, quelles étaient les relations avec les populations arabes ?
Les relations sont des relations extérieures, parce qu'il est impossible d'être invité chez des Arabes, de même qu'il est impossible d'inviter des Arabes chez soi, dans la mesure où les femmes sont enfermées. Il n'était pas question, par exemple, mon père connaissait beaucoup d'Arabes avec qui il avait été élevé, et qu'il voyait quand il rencontrait, etc., mais il n'a jamais vu leurs femmes. C'est impossible à imaginer. Mais même ma mère n'a pas connu, à part les épouses du cadi, parce qu'ils étaient mitoyens avec notre maison, et on les connaissait. Et ma mère a été invitée pour le mariage des filles, c'est tout. Mais mon père n'aurait pas pu y aller, par exemple, parce que c'était impossible à faire. Même notre médecin, qui était aussi musulman, n'a jamais montré sa femme à qui que ce soit. Même à ma mère, il y avait une cloison étanche, alors que le docteur était vraiment... il avait pénétré le foyer parce qu'il a soigné mon père jusqu'au dernier moment, il lui a tenu la main jusqu'à sa mort, et il nous a soignés, il était tout près de moi. Non seulement ça, mais il a refusé, quand le père n'avait plus d'argent à la mort de mon père, mais plus un sou. Il a dit, c'était le docteur Hammer, il a dit à ma mère de ne pas s'inquiéter, qu'on ne devait rien du tout. Ma mère était gênée, mais en réalité très soulagée, parce que ça faisait des dettes affreuses. Oui.
Que faisait votre père et votre mère, quelle était leur
profession ? Mon père était mécanicien, il avait son garage aux Isères, à 5 km. Et ma mère était femme au foyer, comme les femmes étaient à l'époque le plus souvent.
Alors vous disiez tout à l'heure que, en compagnie de votre grand-mère, vous avez appris à coudre, à tricoter, avant lire et écrire, et que vous portiez donc les robes
de ma sœur.
De votre sœur. À quand remonte le sentiment que Jean-Pierre n'est pas Jean-Pierre ?
Je ne peux pas vous le dire, parce que je me souviens pas avoir pensé autrement que ça, quoi. Des souvenirs que j'ai, je ne peux pas dire ça date, il s'est passé tel événement qui a déclenché en moi, non, pas du tout. C'était comme ça, je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose en moi, en tout cas... je n'arrive pas à le percevoir.
Et vous saviez pourquoi Jean-Pierre, ce prénom de Jean-Pierre ?
C'est-à-dire que ma mère avait demandé que ma sœur s'appelle Jeanne, comme sa mère. Et elle s'est dit, si j'ai un garçon, j'aimerais qu'il s'appelle Pierre comme mon père. Mon père lui passait beaucoup de choses, c'était sa seconde femme, il pensait que ça lui porterait bonheur. Et lui aurait préféré Jean, parce que ma sœur s'appelait Jeanne, il voulait Jean. Alors, quand il a été me déclarer, il m'a déclaré Jean-Pierre, tout simplement. Voilà.
Et vous racontez que vous ne vous identifiez pas à ce prénom.
Ah, j'ai commencé à le détester. Mais j'ai commencé à le détester quand je me suis rendu compte que c'était un prénom masculin, parce qu'on ne se rend pas compte étant 13 enfants. Donc, je me souviens qu'à 4 ans et demi, je savais déjà que c'était un prénom masculin et je le détestais. En plus de ça, j'aurais aimé qu'on me donne un surnom. Je me souviens de ça. Et on ne me le donnait pas. Ça venait pas à personne de me donner un surnom. Voilà. Donc, on m'appelait Jean-Pierre. Et je n'aimais pas mon prénom, je ne pouvais pas le supporter. Ben oui, pour une raison évidente, parce que c'était un prénom masculin.
Oui. Et alors, comment se passait le fait que vous aimiez... porter des robes, comment votre mère, votre sœur, votre grand-mère accueillaient ce plaisir de jouer avec la féminité?
Je me souviens que ma sœur regardait ça d'une drôle de façon, mais quand elle ne voulait plus de ses robes parce que ça ne lui allait plus, parce qu'elle avait grandi, etc., et elle savait que je les réclamerais, et bon, elle disait rien, mais quelquefois quand même elle faisait une réflexion, je sais pas, ah tu vas encore mettre une robe à moi, non mais vraiment... quand même, ça, c'est pas bien. Ma mère la faisait taire aussitôt. Mais ma mère, d'un autre côté, je me souviens, un jour où elle a voulu me faire dire mon prénom, parce qu'elle venait me donner une nouvelle robe de ma sœur, je venais de mettre cette fameuse robe, et ma sœur m'avait aidé à la mettre, tout en faisant une petite réflexion au passage. De toute façon, ça prendra fin un jour. Maman me l'a dit, ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement des mots. Alors j'ai voulu savoir ce que ma mère avait dit à ma sœur. Ma mère a dit à ma sœur qu'elle se taise et qu'elle n'avait pas à dire des choses pareilles. Et elle lui a dit de finir le travail de rangement qu'elle était en train de faire. Et elle m'a amené de l'autre côté de la maison. Et elle m'a dit, dis-moi ton nom. Elle m'a assise sur ses genoux et elle m'a dit, dis-moi ton nom. J'avais 4 ans et demi. Et j'ai pas voulu dire mon nom. Alors, il y a eu toute une scène où elle m'a forcé, si tu m'aimes, dis-moi ton prénom, etc., etc. J'ai fini par le dire.
Comment ça se passe, du coup, quand vous entrez à l'école, puis le collège, le lycée, comment cette expérience de soi, ce sentiment de ne pas être ce garçon Jean-Pierre, mais d'être une fille, puis une femme ensuite, bon, une fille, comment ça s'expérimente à l'extérieur du foyer familial?
Oh, ben, même dans le foyer familial, parce que du jour où je vais à l'école... Je vais à l'école à 6 ans, c'est l'âge auquel on a droit d'aller à l'école. Les robes, c'est terminé. Me laisser un peu pousser de cheveux, c'est terminé aussi. Tout est terminé, il n'y a que l'école qui compte. Ma mère, qui ne s'est pas trop occupée de mon éducation, qui ne m'a pas appris à lire et à écrire parce que je m'y refusais absolument. Et alors, du jour où je rentre à l'école, c'est elle qui me prend en main et qui ne me lâche plus. Alors là, il faut apprendre les leçons, je pleure, je veux pas apprendre, je veux pas apprendre à lire, je veux pas... J'aimais qu'elle me fasse la lecture. Elle m'a fait beaucoup de lectures pour me donner le goût de la lecture. Elle me l'a jamais donné. Mais je voulais qu'elle continue à me faire la lecture. Il n'y avait pas de télévision à l'époque, bien entendu. Et notre radio ne fonctionnait que quand bon lui plaisait. C'était un martyr pour moi de rentrer. C'était pire que l'école. À l'école, j'ai déchiré mon livre. Et j'accusais mon camarade, qui était un cousin, de déchirer. Ma mère m'a dit, je vais aller à l'école voir un petit peu. Alors, j'ai dû avouer que c'était moi qui déchirais mon livre. C'était casse-pied. C'était très ennuyeux. Bref, ma mère m'a forcé à lire. Et sans elle, je crois que j'aurais jamais pu. On voit des enfants qui sont réfractaires à l'école et qui n'apprennent rien. C'était mon cas. Et ma mère a dû batailler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être, pour que je m'habitue à l'école, que je fasse mes devoirs, etc. Et encore, dès qu'elle me lâchait, je laissais aller. Il a fallu que j'attende d'entrer au collège. Tout d'un coup, au collège, j'étais transformée et les études m'ont plu. Alors, je me suis un peu détachée des animaux, et je suis restée enfermée dans ma chambre. J'ai aimé étudier, j'ai découvert tout ça, et... J'ai rattrapé une année que j'avais perdue en travaillant très mal à la mort de ma sœur. Ma mère ne s'est plus occupée de rien, elle m'a laissé aller complètement et je n'ai rien fait. Si bien qu'à la fin de l'année, il y avait un concours pour entrer en 6e à cette époque-là. Donc j'ai raté le concours pour entrer en 6e. Et ma mère m'a accusé d'avoir fait exprès, puis après elle a repris les choses en main. Elle m'a fait faire les devoirs, tout a été fait, Et je suis rentré au collège où là, j'ai fait mes 4 années en 3 ans. Et j'ai eu les prix d'excellence chaque année. C'était très bien, quoi. Après, il y a eu le café. Et c'était tout autre chose.
C'est-à-dire ?
Ben, c'était l'essence qui commençait à s'éveiller, parce qu'ils se sont éveillés tardivement, mais ils se sont éveillés. C'était le lycée qui m'intéressait plus du tout. Je ne faisais rien. Je ne pensais qu'à être, pas les premiers temps, mais bientôt après, je pensais qu'à être dans le café, de prendre contact avec les gens, de parler, de les servir, de les écouter parler. Et puis, il y avait le casino de la Corniche à côté. Donc, ça nous amenait aussi une autre clientèle que la clientèle locale. Et je regardais tout ça. J'apprenais un petit peu une autre vie, par oui dire.
Est-ce que c'est à ce moment-là, par exemple, que s'éveille le désir de ce qui vous mènera à la scène ensuite? Je lisais que vous aviez rencontré, lors d'une de ces tournées, Coccinelle. En tout cas, qu'elle était passée en tournée en Algérie. Et que c'est là que vous aviez eu contact avec cet univers-là, cet univers des cabarets, du chant, de la scène.
Non, c'est-à-dire que l'idée de vivre comme une femme s'imposer désormais. Je ne pouvais plus, j'avais 15 ans passés, et 16 ans après, c'était plus possible. Je ne voulais plus du tout de cette vie-là. Mes camarades me parlaient au lycée, il y avait 2 ou 3 avec qui je parlais un peu, qui me trouvaient un petit peu spécial, mais ils me demandaient, naturellement, je n'allais à aucun cours de gymnastique, il n'était pas question que je me retrouve là-dedans. Il me fallait des billets d'excuses pour mon absence. C'est moi qui me les faisais, puisque ma mère n'était pas sur place. Je faisais des faux. Donc, non, ça n'allait plus du tout. Ce qui m'allait, c'était de penser à mon avenir. Il fallait que je pense à vivre avec mon ami, parce que je pensais avoir un ami qui commençait à avoir les yeux sur moi. Et je voyais plus loin.
Ça veut dire que vous étiez déjà dans une relation en tant que femme ? Comme femme avec un ami.
Oui, mais oui. Comme femme avec un ami, mais lui ne me voyait pas des mêmes yeux.
C'est ça.
Et il voulait me ramener à ce qu'il appelait la raison. Et alors, c'est là que j'ai compris. Quand vous m'aviez parlé de Coccinelle, oui, il y avait eu au casino l'arrivée de Coccinelle. Et je me suis dit que cette vie, non pas de spectacle, mais cette vie féminine, qu'elle menait, belle en grand tralala, au spectacle, etc., j'allais la mener à Alger. J'allais vivre à Alger, j'avais 17 ans, je pensais comme ça, j'allais vivre à Alger, en femme, je trouverais, je savais servir dans un café maintenant, ben je voyais pas plus loin que ça. Je pourrais travailler peut-être, je sais pas, dans n'importe quelle brasserie ou boîte, au milk bar, par exemple, et puis, ça serait parfait, je vivrais avec mon ami. Mais mon ami, naturellement, m'a dit que c'était une folie, mais c'était impensable. Et en effet, je pensais que c'était impensable. J'ai donc fait ma valise et j'ai quitté le bar où je travaillais, où j'habitais. Et je suis rentré chez ma mère et après, j'ai fait mon premier voyage.
Votre mère vous a laissé partir comme ça, ça?
Ah ouais, j'ai menti. J'ai menti.
Qu'avez-vous prêté ?
Eh bien, d'abord, elle savait que je voyais régulièrement un journaliste d'Alger, de l'époque, que mon oncle connaissait, donc elle avait confiance. Je lui ai dit que ce journaliste partait à Paris et qu'il voulait bien m'avoir comme secrétaire pour m'apprendre un petit peu ce que c'est que le métier et me faire voir du monde. Ma mère n'a pas imaginé que je mentais. Et donc, je suis parti.
C'est très courageux, vous prenez le bateau ou l'avion?
J'ai pris l'avion, oui. J'ai pris l'avion, je suis parti à Paris, et je suis allé directement au Carrousel. J'ai vu le patron qui m'a dit, mais, tu as quel âge? Ben, j'ai dit, j'ai 17 ans. Et tu sais chanter? Non. Tu sais danser? Non. Il me dit, mais bon, c'est pas grave, tu commenceras chez Madame Arthur, mais à 17 ans, ça m'étonnerait que tu puisses travailler, j'ai demandé à la police. Et toi-même, écris à ta mère, demande-lui l'autorisation et que tu travailles chez Madame Arthur en lui disant ce que c'est que le cabaret Madame Arthur. Parce que le patron du Carrousel était aussi patron de chez Madame Arthur. Alors, j'ai écrit à ma mère. La police a refusé de me laisser commencer à 17 ans. Ma mère m'a répondu, pour une fois avec beaucoup d'autorité, « Rentre par le premier avion, sans quoi je te fais rentrer par la police. » Alors je suis rentré, j'ai obéi, j'ai demandé qu'à obéir puisque ça m'arrangeait.
Bien, alors réservons la suite de cette aventure pour notre entretien de demain mardi. Merci beaucoup Marie-Pierre Pruvot. À demain.
J'ai rien répondu, fallait-il que je dise à demain?
Je savais pas. C'est vrai que c'est très mal poli, Mike.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Alexandre Breton avec Marie-Pierre Pruvot, alias Bambi. À voix nue, réalisation Véronique Lamandour, prise de son Clément Vuillet, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, déjà disponible sur franceculture.fr et l'appli Radio France.